Actui.
Les titres du journal.
Les utilisateurs du Tonkin devront se passer de train du 3 au 31 août prochain. La ligne ferroviaire régionale sera fermée à la circulation en raison d'importants travaux sur les voies. Des bus de remplacement sont prévus. Les eaux du lac de Breteuil à Villars sont passées du vert au noir en quelques semaines. Un changement qui témoigne des premiers effets de travaux lancés au printemps. 4 ans après avoir accueilli le départ d'une étape du Tour de France masculin, Aigle s'apprête à replonger dans l'effervescence de la Grande Boucle à l'occasion du Tour féminin. Un travail conséquent en coulisses, notamment sur le plan sécuritaire. Et en rink hockey, l'équipe de Suisse M17 est rentrée des championnats d'Europe avec une 4e place. Une fierté pour son entraîneur, le montreusien Bruno Fagnanas.
Et pour la météo, ça va se gâter cet après-midi avec des nuages et possiblement des orages. Météo complète en fin de journal. Un journal qui vous est présenté par Xavier Borgeau. Bonjour Xavier.
Bonjour, la ligne du Tonkin sera totalement interrompue entre Monté et Saint-Gingolph du 3 au 31 août prochain. Durant cette période, les voyageurs devront emprunter des bus de remplacement. Les CFF profiteront de cette fermeture complète pour mener un vaste chantier de renouvellement des infrastructures entre Monté et Saint-Gingolph. Il permettra aussi de moderniser 9 passages à niveau entre Monté et Le Bouvray. Le calendrier de ce chantier n'a pas été choisi au hasard. Les CFF concentrent ce type d'intervention pendant les vacances lorsque la fréquentation des trains est la plus faible. Même si la fermeture se prolongera jusqu'à la rentrée scolaire, l'ex-régie fédérale assure avoir anticipé cette période, comme nous l'explique Frédéric Reva, porte-parole des CFF.
Le grand avantage de ces travaux qui sont planifiés, c'est qu'on a le temps de mettre en place des systèmes de substitution qui soient solides et capacitaires. Et puis aussi, on suit bien sûr intensivement les affluences pour éventuellement adapter le concept le cas échéant. Mais c'est le grand avantage, je dirais, de ces travaux planifiés, c'est qu'on a le temps vraiment bien à l'avance de mettre suffisamment de capacité pour assurer une bonne chaîne de transport. On communique comme lorsqu'on interrompt une ligne aussi plus chargée, c'est-à-dire qu'on met en place des affiches, on fait des annonces en gare. Bien sûr, on fait des communiqués de presse, hein, ça a bien été repris dans la presse. Et puis on a surtout, je dirais, l'horaire en ligne qui est adapté en période estivale. Ça vaut toujours la peine de regarder l'horaire en ligne sur l'application CFF ou sur Internet pour voir les changements d'horaire. Typiquement, là, vous avez les changements d'horaire qui sont adaptés pendant tout l'été sur la ligne du Tonkin.
Au total, près de 60 ouvriers seront mobilisés simultanément sur le chantier. Les travaux porteront notamment sur 3,3 km de voies ferrées et 9 passages à niveau. C'était un sujet signé Ludovic Turin.
Le lac de Breteuil, au-dessus de Villars, retrouve son lustre d'antan.
La commune de Lons a démarré au printemps un processus permettant de réoxygéner le plan d'eau. Les travaux ont permis d'éliminer les cyanobactéries, d'améliorer le goût du réseau d'eau potable communal, qui avait un goût tourbé, et de restaurer l'écosystème. Et c'est le service des eaux de Lons qui a imaginé un système maison pour oxygéner le lac, qui devrait rester en place le temps nécessaire. Et la fresque de l'artiste Seip qui surplombait le plan d'eau en temps normal a été déplacée, comme l'explique Gilbert Frémont, municipal boyard chargé de la protection de l'environnement.
Suite aux analyses du canton, qu'on remercie encore en passant, c'est qu'on a découvert que depuis que CEP a fait ses fresques, sur le bassin versant, donc en zone S2, on avait une augmentation de l'azote dans le lac. On s'est posé la question, est-ce que c'est dû à ça, au ruissellement, quand la fresque part avec les pluies? Et on s'est aperçu que la matière qu'il utilise pour faire ses fresques a quand même une certaine teneur en azote. Alors, pour mettre toutes les chances de notre côté, on a demandé à ce qu'il déplace ses fresques. Il n'a absolument pas réfuté, il a pris ça dans une très bonne humeur, ce qu'il peut très bien comprendre. Et on a voulu mettre toutes les chances de notre côté, justement en interdisant la fresque dans le bassin versant du lac de Breteuil.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Il faudra toutefois attendre plusieurs années pour que le lac se régénère totalement. Le Hamas a consenti ce vendredi à un accord de désarmement dans la bande de Gaza en vue d'appliquer la deuxième phase du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien et Israël. Un des points clés du plan de paix du président américain Donald Trump. Selon un responsable du Hamas, le mouvement compte sur les médiateurs et le Conseil de paix, créé en janvier par le président américain, pour obliger Israël à respecter les termes de l'accord. Et malgré le cessez-le-feu, les violences entre Israël et le Hamas continuent au quotidien depuis le mois d'octobre. Jeudi, des frappes israéliennes ont fait au moins 4 morts, selon les autorités sanitaires locales. Et quelques 40 000 personnes ont traversé la frontière ces derniers jours entre le Maroc et l'enclave espagnole de Ceuta, a indiqué aujourd'hui une source policière à l'agence France-Presse. Les arrivées qui n'ont pas cessé de la nuit continuaient ce matin, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents. 18 d'entre eux sont morts noyés en tentant le passage de la frontière par la mer, selon cette source, dans ce petit territoire habité par 80 000 personnes.
La Confédération asiatique de football soutient l'UEFA et la Confédération de football d'Amérique du Nord, opposée au projet de la FIFA de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés.
Dans un communiqué publié aujourd'hui, elle a annoncé vouloir protéger la Coupe du Monde. Sans clairement prendre position contre le projet, la Confédération asiatique de football estime que toute proposition risquant de porter atteinte à l'unité et au caractère universel de la Coupe du Monde doit être reconsidérée au lendemain de la menace de boycott des compétitions de la FIFA brandie par l'UEFA. Et on reste dans le monde du ballon rond. Le légendaire défenseur italien Franco Baresi est mort à l'âge de 66 ans, annoncé ce matin le club de l'AC Milan. Capitaine emblématique du club milanais des années 80 et 90, il a remporté 6 championnats d'Italie avec les Rossoneri. Champion du monde avec l'Italie en 1982 et finaliste du mondial en 1994, Franco Baresi est considéré comme l'un des plus grands libéraux de l'histoire. L'AC Milan n'a pas précisé les causes du décès de l'ancien joueur.
Le FC Sion a fait un premier pas en direction de son nouvel objectif européen.
Succès 4-0 hier soir à Tourbillon face au Baté Borisov. Obstacle du deuxième tour qualificatif de la Conference League franchi de manière plutôt aisée. Afin d'entrer dans la phase de Ligue, il reste encore 2 étapes à négocier. La première face au Noah FC, un club arménien. Après l'Azerbaïdjan, les Sédunois retourneront donc dans le Caucase. Et l'entraîneur Didier Tolo n'en fait pas tout un plat.
Je suis prêt à faire tous les déplacements possibles pour aller dans les poules. Donc on va récupérer, on va se battre, on va penser déjà à Lucerne dimanche et puis après on verra jeudi prochain.
Justement, Lucerne dimanche, ça laisse peu de temps à la récupération. Vous avez déjà un plan en tête ?
Oui, on a commencé tout de suite. Là, on a commencé. Là, il y a déjà un décrassage qui a été fait pour ceux qui ont joué et qui ont fait tout de suite. Il y a un travail supplémentaire qui a été fait sur le terrain pour les autres. Il y a un repas qui est mis en place tout de suite après pour que la nourriture puisse aider à récupérer. Voilà. Donc c'est des petits détails qui sont importants et qu'on met en place quand tu joues tous les 3 jours.
Un sujet signé de nos confrères de Rhône FM. Et football toujours, le Lausanne Sport a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Thomas Cordier en provenance du PSG, où il était en fin de contrat. Le latéral gauche s'est engagé pour 3 ans, soit jusqu'en juin 2029 avec le club de Super League.
En cyclisme, Aigle s'apprête à accueillir une nouvelle fois le Tour de France.
4 ans après les hommes, ce sont les femmes qui s'élanceront depuis la cité chablaisienne dimanche pour rejoindre Genève. L'aboutissement de 13 mois de mise en place pour le comité local d'organisation qui a créé 9 commissions afin de préparer au mieux la venue de la grande boucle dans sa commune. L'une des priorités fut la sécurisation du parcours. Et là aussi, le travail fut conséquent. Les précisions de Laurent Niki, responsable du comité Aiglon d'organisation et membre du comité du Grand Départ Suisse.
On a fait des réunions avec toutes les communes traversées. Il y a une centaine de communes traversées sur les 2 jours. Donc c'est prendre contact avec ces communes, les informer, demander du barriérage. Et puis la sécurisation des routes, c'est aussi protéger tous les obstacles pour que finalement la course elle puisse se passer sans encombre.
Au moment où on se parle, qu'est-ce qu'il reste à faire d'ici dimanche ?
Alors, tout est fait, mais c'est tous les petits détails. Il faut accueillir toutes ces infrastructures, il y a les livraisons, il y a les spécialités, etc. Il faut vérifier que l'électricité fonctionne, que toutes les demandes soient en fait sur le terrain prêts samedi matin.
Et dimanche, le départ fictif de l'étape Aigle-Genève sera donné à 14h20 depuis le centre-ville. C'était un sujet de Thierry Nicolet.
L'équipe de Suisse des moins de 17 ans de rink hockey a pris la 4e place des championnats d'Europe.
Une performance plutôt rare pour une sélection helvétique dans une compétition internationale. Après avoir battu l'Italie en quart de finale, les joueurs de la Nati se sont finalement inclinés en demi face à l'Espagne. De quoi rendre très fier leur sélectionneur Bruno Fagnanas. Le Montreusien a surtout tenu à mettre en avant l'état d'esprit de ces jeunes. Bruno Fagnanas.
C'était très difficile tout au début de créer une belle cohésion d'équipe, du fait qu'il y ait différentes langues au sein de l'équipe. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a vraiment réussi à créer du lien entre les joueurs et ça a amené une grosse force de caractère qui nous a permis à maintes reprises de remonter des matchs, d'être très solidaires et je pense que ça a été vraiment, on va dire, l'adjectif qui nous qualifie, c'est ce caractère, cette force de caractère. Ça a été juste vraiment extraordinaire voilà, de se dire qu'ils ont rien lâché, que les joueurs se sont toujours dit que tout était possible et que remonter des matchs, c'était envisageable. On l'a fait à 2 reprises et je pense que ça a amené une grosse solidarité, une grosse envie de bien faire. Donc voilà.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. Et après sa mission avec les U17 de l'équipe de Suisse, Bruno Fagnanas retrouvera son rôle d'entraîneur des juniors du Montreux HC.
L'actu en continu, radiochablais.ca.